il y a quelques semaines, c'était plus exactement fin du mois de juin, au cours d'une réunion de prière chez moi, j'avais partagé avec quelques-uns d'entre vous une petite méditation. Alors, Seigneur m'a mis à cœur de l'étoffer un peu, de l'enrichir, si je puis dire. Je souris parce que vous verrez après pourquoi le mot enrichir. Alors, je l'ai un petit peu donc étoffé pour la partager avec vous tous. Alors, je vous propose déjà de, pour introduire cette réflexion, d'ouvrir votre Bible à l'évangile de Luc au chapitre 18. Luc 18, 18. Facile à retenir. Luc 18, 18. Alors, c'est le passage donc où un homme riche vient trouver Jésus et lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Oui, oui, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Ah oui, quand je lisais ce passage, je me disais, « Ouf, je suis pas riche. » Je ne m'identifiais pas à ce riche. Et même, je me disais, je le plaignais, je me disais, pauvre homme riche, il va pas rentrer dans le royaume de Dieu, comme c'est triste. Mais moi, j'étais un peu soulagé, parce que je dis, moi, je suis pas riche après tout. Hein. Et alors, pourquoi j'étais soulagé? Parce que les paroles de Jésus, ici, sont très, très dures, très difficiles à accepter. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme riche, il s'en va triste, parce que c'est dur ce que dit Jésus. Mais alors, ce que j'ai remarqué à cette lecture-ci, c'est que les disciples de Jésus aussi, et les gens qui étaient autour, eux aussi, ils sont ébranlés par ce discours, ils sont interpellés, ils sont choqués. Et je dis pourtant, eux, ils ne sont pas riches. Hein? Certains d'entre eux devaient être même assez pauvres. Et je pense qu'ils avaient compris que, contrairement à moi, que ce message de Jésus ne s'adresse pas nécessairement aux hommes riches, aux gens qui possèdent énormément de biens, mais que c'est un message qui s'adresse à nous tous, et pas seulement aux riches. Parce que si même on n'a pas de grands biens, bien on a tous besoin de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un pour suivre Jésus. Et c'est vrai que Pierre s'inquiète aussi parce que eux aussi ils ont quitté. Bon, ils n'étaient pas riches. Pierre n'était pas riche, mais il avait quand même une petite entreprise. Il gagnait correctement sa vie. Donc ils ont dû quand même quitter tout ça pour suivre Jésus. Et alors ils s'inquiètent. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que c'est que être riche? Hein? À partir de quel moment est-on considéré comme riche? Quelle quantité de biens, quel compte en banque faut-il posséder pour entrer dans ce club de riches? À partir de quelle tranche de revenus on peut considérer qu'on est riche ou pas? Comme aurait dit le fameux savant Einstein, tout ça c'est relatif, puisque c'est lui qui a inventé la théorie de la relativité. Donc. Et c'est vrai que c'est relatif, ça dépend par rapport à qui vous vous comparez. Moi je me rappelle, j'avais un collègue au travail, il aimait bien montrer qu'il avait un peu les moyens, comme ça. Hein. Et alors, quand il achetait quelque chose de nouveau, ben, une nouvelle montre, un nouveau GSM, ben, il montrait à tout le monde. Ou bien quand il partait en vacances quelque part, dans un hôtel 6 étoiles, là, évidemment, il le disait à tout le monde. Alors quand on lui disait, « Ouais, mais t'es fou, toi, c'est cher !» Alors il nous regardait un peu narquoisement, comme ça, et il nous répondait, « Bah oui, c'est cher, mais ça dépend pour qui. » Ben oui, ça dépend pour qui. Donc c'est relatif, la richesse. C'est vrai qu'en Belgique, pour être riche, pour être considéré comme riche, il faut quand même posséder beaucoup. Donc si c'est vrai que si je me compare avec certaines personnes qui ont des grosses fortunes, je peux pas dire que je suis riche. Je possède pas de villa à la Côte d'Azur. J'ai pas un yacht à Marée, à Saint-Tropez. Je suis pas à la recherche d'un paradis fiscal pour ne pas payer des impôts. Je ne cherche pas à me faire naturaliser russe comme certains. Mais si je me compare à des personnes, par exemple, qui vivent avec une petite allocation sociale et qui ont beaucoup de difficultés pour arriver à la fin du mois, et là, je peux être content de ma situation. Là, je me sens déjà un peu mieux. Si en plus on sort un peu de la Belgique et qu'on considère certains pays, les conditions de vie pénibles dans lesquelles vivent certaines populations, et là je peux estimer que là je suis un grand privilégié. Si je faisais un inventaire de mes biens, si je commence à comptabiliser maison, voiture, mobilier, ben qui sait, si on faisait le compte, je serais peut-être plus riche que ce riche dont qui parle avec Jésus. Parce que à cette époque-là, qu'est-ce que ça signifie être riche? Peut-être qu'il avait un troupeau de moutons ou de chèvres, je sais pas. Bon, il avait une maison, il avait peut-être un serviteur, un jardinier, que sais-je. Mais à l'époque, être riche, c'était pas... Alors si je ferais le compte, ben, qui sait, peut-être que je suis plus riche que lui. Et alors, tout doucement, je commençais à m'identifier à ce riche dont qui parle avec Jésus. Et alors, les paroles de Jésus, ben, je les prends maintenant pour moi. Donc je commence à être interpellé par ce que Jésus dit. Est-ce que je serai capable de renoncer à certaines choses auxquelles je tiens pour suivre Jésus? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour suivre Jésus, pour me mettre à son service? Ça, c'est les questions que pose Jésus. Et Jésus, ici, nous donne un enseignement sur... l'engagement. L'engagement, le renoncement, renoncer à soi-même, et qui s'adresse à nous tous, et pas seulement à quelqu'un qui est très riche. Il a pris l'exemple de l'homme riche, il a pris un exemple extrême, mais c'est pour nous interpeller, pour nous choquer. Mais ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'on a tous quelque chose, on a tous besoin de renoncer à quelque chose. Et on est plus riche que ce qu'on pense être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? D'abord, il y a la décision, le jour où on prend une décision pour suivre Jésus. Ça, c'est ce que nous appelons, nous, la conversion. Donc, c'est une décision que nous prenons et qui doit nous conduire au salut. Mais suivre Jésus, ça veut dire aussi marcher avec lui, cheminer avec lui dans toute notre vie spirituelle, donc dans tout le trajet, le parcours que nous devons faire ici-bas, et servir Jésus, être utile. Alors la richesse, c'est aussi pouvoir partir en vacances. Alors j'ai aussi eu ce privilège de pouvoir partir en vacances. Et cette année, je suis parti en Italie, en avion, pas avec mon jet privé. J'ai été plus modeste. Je suis parti avec Ryanair. Ben oui, je suis pas riche, moi. Hein. Alors Ryanair, ben, il pratique des prix intéressants, très intéressants. Mais il faut faire attention aux bagages, au poids des bagages, parce que lorsque vous dépassez le poids, ben, le prix à payer est très cher. Alors, d'ailleurs, certains qui étaient partis avec moi s'en souviennent cruellement, hein, surtout leur portefeuille s'en souvient. Et lorsqu'on préparait les bagages avec Maria, on préparait la grande valise, parce qu'on avait droit à une grande valise de 15 kilos, et puis à deux petites valises qu'on pouvait mettre dans l'avion avec nous. Et la grande valise, donc, il fallait qu'elle ne dépasse pas 15 kilos. Alors, on a commencé à mettre, à charger. Puis après, je dis, écoute, avant de continuer à charger, je vais quand même peser pour voir où on en est et pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir encore mettre entassé dedans. Alors, je pèse la valise, et j'avais déjà 16 kilos. Donc, j'avais déjà 1 kilo en trop. Donc, non seulement je pouvais plus rien mettre, mais il a fallu que je retire. Et je trouve que c'est très intéressant, cette image de ce triage. Parce qu'on a dû, à ce moment-là, commencer à faire un tri entre ce qui était vraiment nécessaire et ce qui était le moindre. Et on a dû renoncer à certaines choses. Et ça, je trouve que c'est un exercice intéressant. C'est très instructif parce que ça nous montre à quel point nous sommes attachés à certaines choses, des petites choses. On va pas pouvoir emporter cette paire de chaussures-là parce que, bon, ça fait quand même peut-être 200 grammes ou 300 grammes. J'aurais bien voulu la prendre parce que j'aime bien cette paire de chaussures, j'aime bien cette chemise. Et on a du mal à renoncer à certaines petites choses. Et en préparant mes bagages, je me suis rappelé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au mois de mars, avril, je ne sais plus, il y avait eu une grève des bagagistes à Bruxelles. Alors, je me suis dit, en faisant mes valises, je pensais, j'espère qu'ils ne vont pas remettre ça. Parce que imaginez ma valise perdu dans un hall d'aéroport, mes affaires auxquelles je tiens, ça me remplissait d'anxiété. Me séparer de mes affaires, de mes petites affaires, des choses auxquelles je tiens, quelle angoisse. Alors pendant les quelques jours qu'ont duré cette grève, les bagages des voyageurs, ils ont été stockés dans un hall. Et j'étais frappé par cette image qu'on a vu à la télévision, toutes ces valises stockées dans cette montagne de valises. Et je me suis dit, regarde un peu la quantité de choses qu'on doit emmener avec nous et qu'on est persuadé qu'on a besoin de toutes ces choses. Et aussi, ça fait prendre conscience de notre richesse quand vous voyez tous ces bagages là, comme ça. Pourtant, bon, en Belgique, on n'est pas des riches, mais on possède beaucoup plus de choses qu'on le croit. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé, c'est que pour ces voyageurs, eh bien, ces valises, toutes ces choses, ces affaires qui se coltinaient avec eux, eh bien, tout d'un coup, c'est devenu encombrant. Parce que ça les empêchait de voyager. Cette chose était devenue un frein. Elle les pénalisait. Et ces voyageurs, ils ont été placés devant un choix. C'est-à-dire, ou bien ils partaient et ils laissaient leur bagage là, en espérant que pour le prochain avion les amène, ou bien ils ne partaient pas et ils restaient près de leurs affaires. Voilà encore un test intéressant, tiens. Qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, les compagnies aériennes ont conseillé à leurs passagers de ne prendre qu'un bagage à main qu'on met donc dans l'avion et de ne pas prendre de valise parce que comme ça on n'a pas besoin de bagagiste. Alors vous imaginez ces personnes, ils avaient commencé à faire une valise comme ça et puis ils ont dû ramener tout à une petite valise. Donc là aussi, ils ont dû se livrer à un triage rigoureux de leurs affaires. En somme, la solution préconisée à ce moment-là, c'était voyager léger, prendre le moins de choses possible. Alors, vous l'avez peut-être deviné, mais cette image des bagages, des affaires qu'on doit trier et prendre ce qui est nécessaire et moins nécessaire, laisser renoncer à certaines choses, évidemment, ça fait penser à toutes ces choses qui nous alourdissent, qui nous freinent, qui nous pénalisent dans notre marche avec Jésus, qui nous pénalisent dans notre vie spirituelle, ces choses qui nous empêchent de servir Dieu comme nous pourrions le faire, de nous rendre utiles à l'avancement de son royaume. Alors Jésus, c'était quelqu'un, lui, qui voyageait léger, même très léger. Moi, j'imagine Jésus, quand il voyageait, il allait de village en village, il devait avoir un petit sac, là, comme ça, en bord du lierre, avec quelques petites affaires de première nécessité. En tout cas, il ne s'encombrait pas de bagages lourds et volumineux, parce que cela l'aurait gêné dans sa marche. Et il a parcouru, comme ça, pendant plusieurs années, des distances considérables à travers la Galilée, allant de village en village pour annoncer le royaume de Dieu. Et donc avec un petit bagage comme ça, un petit sac. Ceux qui ont été en Israël, on ne s'en rend pas compte quand on lit dans l'Évangile, mais quand on dit Jésus alla de là, il alla là, on croit qu'il a mis une demi-heure pour y aller. Mais parfois ça prenait des jours. Et il ne s'en comprenait pas donc de grosses valises, lui. Et aussi, il ne savait pas toujours où il allait dormir le soir. Il n'avait pas une chambre réservée à l'hôtel. Et moi, quand je pars en voyage, à l'étape, bien, je réserve ma petite chambre d'hôtel. Le soir, je vais prendre ma petite douche, je vais dormir. Le matin, je prends mon petit déjeuner, je suis frais pour repartir. Et Jésus, il n'avait pas tout ça. Et il dit même à quelqu'un qui demande à le suivre, il lui dit... Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est dans Luc chapitre 9, verset 58. Mais si Jésus ne possédait pas grand-chose, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours, quand on pense à Jésus, on pense le Jésus qui est né dans une étable, dans des conditions assez
humble. Mais c'était les circonstances qui ont voulu. C'est à cause du recensement qu'il y a eu, donc ils ont dû se mettre en voyage, et puis voilà. Mais moi, il me semble que Joseph était charpentier. Donc il avait un métier. Sans être riche, il avait de quoi... c'était important à ce moment-là d'avoir un métier. C'était quelque chose, c'était pas rien. Donc il devait quand même gagner sa vie correctement. Et Jésus avait certainement eu l'occasion d'apprendre le métier de charpentier. En tout cas, il aurait pu. Et donc, il aurait pu vivre dans un confort relatif. Hein. C'est relatif, bien sûr. Je ne dis pas dans l'opulence, dans la richesse, mais il aurait pu vivre autrement que comme il l'a fait. Il avait certainement une maison. Il avait une famille, il avait des amis dans son village d'où il provenait. Et il a volontairement renoncé à tout ça. Donc, s'il était pauvre, démuni, c'est parce qu'il l'a choisi. C'était un choix de sa part. Il a renoncé à tout ça. Pourquoi ? Ben, pour avoir les coudées franches, pour être libre, pour pouvoir bouger comme il voulait. Jésus a choisi de vivre dans la simplicité parce qu'il ne voulait pas être encombré par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Et pour ça, il prend même ses distances avec sa propre famille. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu 12. Au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Alors, il prend ses distances avec sa famille, parce que sa famille, au début, il se demandait qu'est-ce qui lui arrive à notre Jésus. Hein. Alors, ils essayaient de l'empêcher de faire son ministère. Et donc, lui, il a volontairement quitter sa famille pour la mission pour laquelle il était venu. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit renier notre famille, qu'on doit abandonner notre famille quoi. Mais ça veut dire que, parfois, aussi suivre Jésus, ça demande d'accepter que même dans notre famille, ou dans nos proches, ou dans nos amis, nous s'écarte peut-être de nous ou quoi. Moi, je me souviens que mon père me racontait quand, dans les années 50, il s'est converti. Sa famille était très catholique et au début, sa famille ne voulait plus rien savoir de lui. Mes tantes, donc ses sœurs, disaient « Tu n'es plus mon frère, je te connais plus. » Et donc, bon, c'est difficile, mais si on veut suivre Jésus, eh bien, il faut parfois s'attendre à devoir accepter certaines choses et renoncer à certaines choses. Alors, voyager léger, c'est aussi ce que recommande Jésus à ses disciples. Souvenez lorsqu'il les envoie deux par deux pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est dans Marc, au chapitre 6. Au verset 7. Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Comme vous imaginez, ils ne pouvaient même pas prendre une tunique de rechange. Je ne sais pas comment ils faisaient. Peut-être quand ils arrivaient au bord du Jourdain, ils avaient leurs vêtements, ils les faisaient sécher, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis parti 14 jours, j'ai pris 14 t-shirts, 14 slips, 14 paires de chaussures, 4 paires de chaussures, 6 chemises, rien. Vous imaginez, si j'avais dû suivre le conseil de Jésus, eh bien, Ryanair, il n'aurait pas eu mon argent. Hein. Mais c'est pour vous dire que, voilà, comme nous avons besoin, nous pensons avoir besoin de tellement de choses qui nous freinent, qui nous alourdissent. Et voyager de cette manière, pour les disciples, eh bien, ça leur apprenait le renoncement, renoncer à soi-même. Ça leur a, aussi, ça les obligeait à avoir des contacts avec les gens. Parce que comme ils n'avaient rien, il fallait bien qu'ils demandent l'hospitalité à gauche, à droite, et donc ça leur donnait l'occasion de prêcher. Et ça leur enseignait aussi à compter sur Dieu. Nous, on a tendance à emmagasiner plein de choses, pour être sûr de ne pas manquer. Pourtant, Dieu dit, ne vous souciez pas du lendemain, parce qu'il est là et il pourvoit. Vivre dans la simplicité, ne pas nous laisser accaparer par les choses de ce monde, cela permet de nous concentrer sur notre vie spirituelle et sur la mission que le Seigneur nous confie. Nous avons tous des dons, nous avons tous des dons peut-être différents, mais on a tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Ça peut être pour notre Église, au service de notre Église, ça peut être parler du Seigneur à quelqu'un, mais pour ça, il faut être disponible. Il ne faut pas qu'on soit chargé par toutes sortes de choses, par les affaires de la vie. C'est ce que recommande Paul à Timothée, de ne pas se laisser accaparer par les affaires de la vie. Dans 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Les affaires de la vie, ce sont tous les soucis, les tracas, mais c'est aussi les loisirs et toutes sortes de choses comme ça. Alors, quand on parle de richesse, la richesse, c'est pas seulement les biens qu'on possède, le compte qu'on a en banque. Mais ce qui fait partie de la richesse, c'est aussi le temps que nous pouvons consacrer pour nous faire plaisir. Certains doivent travailler du matin au soir juste pour gagner de quoi survivre. Vous voyez, parfois des reportages à la télévision. J'ai vu dernièrement des gens qui, à partir du matin très tôt, jusque tard le soir, ils cassaient des cailloux, même les enfants de 5-6 ans, cassent des cailloux comme ça toute la journée, pour en faire du gravier, hein, certainement pour faire du béton, je sais pas. Et alors, fin de la journée, ils vont vendre leurs cailloux, et puis ils rentrent chez eux, et ils sont fatigués, et ils mangent, et puis ils vont dormir. Les loisirs, ça n'existe pas pour eux. C'est survivre. Tout ce qu'ils font, c'est survivre. Du matin jusqu'au soir. Chaque minute de leur vie, c'est survivre. Alors que nous avons, nous disposons de plein de temps, de temps que nous pouvons consacrer à des loisirs, à des passe-temps, au sport, à la télévision, les ordinateurs. Et ça, c'est une richesse. Il faut être riche pour avoir du temps pour soi. Parce qu'autrement, on est obligé de travailler tout le temps, se nourrir. Alors, toutes ces activités ne sont pas un mal en soi. Mais le problème, c'est qu'elles risquent d'accaparer notre temps et nos pensées, au point de nous distraire de ce qui devrait être le plus important. Le plus important, c'est adorer Dieu et le servir. C'est ça, marcher avec lui, cheminer avec lui, le servir. Certainement, Dieu ne nous demande pas d'abandonner tout, de renoncer à tout, de vendre tout ce qu'on a, de les donner aux pauvres. C'est un exemple extrême qu'il nous donne. Mais ce qu'il nous demande, c'est de ne pas nous laisser accaparer par toutes ces choses, toutes ces affaires de la vie. Nous avons parfois un motif légitime pour ne pas venir au culte, pour ne pas aller à la réunion de prière, pour ne pas participer à une activité organisée par notre Église. Mais peut-être aussi, c'est parce que ce jour-là, on préfère une autre activité, quelque chose qui nous tient plus à cœur. Et on n'a pas envie d'y renoncer. C'est une activité qui a pris la priorité au détriment de notre service pour le Seigneur. C'est pourquoi, comme cette image de cette valise, là, qu'on doit trier ses affaires, de ne retenir que ce qu'on a besoin, on devrait régulièrement faire un tri dans nos affaires et garder ce qui nous est réellement utile et nous débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui nous freine, qui nous alourdit dans notre marche avec le Seigneur. Ce qui nous empêche d'être disponibles pour son service, de nous rendre utiles dans notre Église. Alors pour certains, vous n'avez peut-être pas pris encore la décision de suivre Jésus, de l'accepter comme sauveur personnel. Alors, vous cherchez peut-être des tas de raisons, hein, mais c'est peut-être parce que vous traînez derrière vous une valise très lourde et remplie de choses qui ne sont pas nécessaires. Ah, vous pensez que ces choses sont nécessaires, que vous en avez absolument besoin. Vous ne pouvez pas vous en passer. Et vous ne voulez pas y renoncer. Et bien souvent, on ne veut pas accepter de suivre Jésus parce qu'on n'a pas envie de renoncer à quelque chose qui nous tient à cœur. Pourtant, il y a une récompense extraordinaire pour ceux qui décident d'abandonner leur ancienne vie. C'est ce que Jésus dit en réponse à la question de Pierre. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Luc 18. On peut revenir dans Luc 18. On peut le relire parce que moi j'aime vraiment beaucoup ce passage. À partir du verset 29, Luc 18, 29, bien Jésus parle d'une récompense qui est pour ceux qui renoncent au monde, aux choses du monde, et qui se mettent à marcher avec Jésus. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les personnes qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus parle déjà de récompense ici, déjà de bénédiction ici dans cette vie. et dans la vie éternelle, évidemment. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Jésus, il a renoncé à beaucoup de choses pour se rendre disponible pour nous. Il a renoncé à sa maison, sa famille, son petit confort douillet. Mais il a renoncé à une chose bien plus importante. Ce qu'il a, il a renoncé à sa nature divine. C'est ce qu'écrit Paul aux Philippiens, afin de leur faire prendre conscience de ce qu'est l'humilité et le renoncement à soi-même. Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a donc pas seulement renoncé à des biens terrestres, à un confort terrestre, mais il a renoncé à sa nature divine. Il était Dieu. Mais on ne peut pas tuer Dieu, on ne peut pas mettre Dieu sur une croix, on ne peut pas crucifier Dieu. Et lui, il était venu pour mourir. Et donc, pour pouvoir mourir sur cette croix, il fallait qu'il abandonne, qu'il renonce à son privilège de Dieu, ses attributs de Dieu. Pour pouvoir mourir sur la croix, afin de prendre sur lui le châtiment que nous méritions, il fallait qu'il renonce à sa divinité. On a parlé beaucoup de la famille royale ces temps-ci, mais aujourd'hui les rois, bon, mais imaginez un roi à l'époque, un roi tout-puissant qui est dans une forteresse avec des portes, de lourdes portes blindées, protégées par une armée, qui a compte à rendre à personne. Et personne ne peut lui poser de questions, personne ne peut le juger. Il est à l'abri de tout. Et ce roi, il va renvoyer son armée, il va ouvrir les portes de sa forteresse, et il va se livrer à la population qui va le crucifier. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a abandonné, il a renoncé à tout, à sa nature divine, pour mourir sur la croix, pour nous. Alors quand on voit le sacrifice de Jésus, le sacrifice qu'il nous demande à nous de faire me semble bien dérisoire. Il ne nous demande pas de renoncer à tout, d'abandonner tout, mais il nous demande de faire une sélection dans nos affaires, dans nos activités, dans le temps que nous avons à notre disposition, afin de lui consacrer un temps pour lui, pour être utile à son service. Si nous voulons plaire à Jésus, l'adorer, le servir comme il mérite, débarrassons-nous donc de ce qui nous pénalise, qui nous handicape, pour ce voyage auquel le Seigneur nous invite à participer. Ce voyage, il va se dérouler en partie ici-bas, et il aura une fin ici-bas, mais il va continuer éternellement, quand nous serons avec lui dans son royaume. Mais, pour faire ce voyage avec lui, le Seigneur nous demande de voyager léger. Amen.